SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice, un épisode très spécial aujourd'hui, spécial parce qu'on a un invité spécial. On va parler de télévision également, mais on a toujours, bien entendu, Nathanaël Bloch avec nous. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on a un invité spécial, vous nous l'avez amené, Noé Debré. Bonjour, bienvenue dans les bureaux d'SBS pour Europa Voice.
Bonjour, merci de me recevoir.
Noé Debré, vous êtes le créateur d'une série qu'on peut connaître si on s'intéresse un petit peu aux médias en France. On espère qu'elle arrivera d'ailleurs sur SBS On Demand, c'est Parlement. Parlez-nous un petit peu de la genèse de cette série. Juste un synopsis, on est dans l'ascenseur. Vous avez deux étages pour me raconter ce que c'est Parlement.
Ah bah, en deux mots, c'est Parlement, c'est une comédie qui se passe au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Et on suit les pérégrinations de Samy, qui démarre en première saison assistant parlementaire et qui ne comprend pas grand-chose à la politique européenne et va devoir se faire sa place dans ce monde étrange.
Moi, j'ai une question, Noé, à te poser. On l'a vu là pour la saison 4, il y a des petits clips humoristiques fait par les personnages principaux de Parlement pour inciter à voter, pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales. Donc il y a un côté maintenant politique, il y a un message politique du projet. Quand la série, elle a été créée, est-ce que c'était simplement un bon objet fictionnel ou tu avais déjà derrière la tête un message politique à faire passer ?
Je voulais sauver l'Europe.
Ouais, bah c'est bien parti.
Et c'est réussi d'ailleurs.
Bravo.
Non mais pas vraiment. En fait, le problème... Je pense que si on part avec l'idée qu'on va faire une série à message, globalement, ça fera pas une très bonne série. Moi, le Parlement européen, je trouvais d'abord que c'était un super décor de fiction, une arène qui m'intriguait. J'ai grandi à Strasbourg, comme tu le sais, pas loin du Parlement européen que je voyais un peu tous les jours. Et en fait, j'étais curieux de savoir ce qui se passait dedans. Et puis j'avais l'intuition qu'il s'y passait des choses qui pouvaient constituer une bonne comédie. Et c'est de là que ça vient. Et ensuite, cette histoire de petits clips pour inciter les gens à aller voter, dans notre tête, pour moi, c'est pas politique, c'est civique. Ça veut dire, on n'incite pas les gens à aller voter pour un candidat en particulier. Ce qu'on dit, c'est aller voter. Et c'est l'initiative de la productrice de la série qui s'appelle Fabienne Servan-Schreiber, qui est très attachée à ces questions-là, puisque c'était son mari qui est décédé, était député européen. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'elle porte en sa mémoire, je crois.
Et si on parle de la série en elle-même, donc là, il y aura une saison 4, a priori, c'est ce qu'on va savoir. La saison 3 a bien marché. Il y a vraiment eu une évolution dans la série entre saison 1, 2 et 3. Est-ce que c'est aussi, ça relate le fait que vous avez aussi progressé dans vous, en tant que écrivain, vous avez une carrière avant, mais cette série, elle est quand même très importante pour vous dans la carrière. Le rôle de Samy aussi, c'est aussi, il est arrivé, il était totalement ignorant, donc en fait, il emmène le téléspectateur dans une espèce de nébuleuse qu'on connaît, hein, le Parlement européen divisé en deux endroits, mais on apprend aussi beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous avez progressé en tant qu'écrivain dans cette série, comme Samy progresse, lui, autour de ce Parlement européen ?
Oui, dans le rapport avec moi en tant que créateur de la série, etc., j'en ai pas fait l'analyse.
Mm-hmm. On peut commencer maintenant, s'il vous plaît.
En revanche, ce qui est sûr, c'est que, il y a une tentation en série, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas, les séries comiques, c'est souvent le cas. En fait, quand on a fini la première saison, et que j'ai appris qu'il y aurait une deuxième saison, ce qui était pas loin d'être évident, j'ai regardé plein de deuxièmes saisons de séries, et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart suivaient simplement le canevas de la saison 1. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous resservent à peu près les mêmes épisodes en saison 2 qu'en saison 1. Puis voilà, vu qu'un an s'est passé, les gens ont un peu oublié, et puis donc voilà, on recommence la même chose. Et nous, on s'est tout de suite dit avec mes co-auteurs qu'on voulait pas faire ça, qu'on voulait essayer de faire progresser la série, et qu'en fait, un plaisir En fait, un truc qui nous faisait très peur au départ en faisant la série, et c'est normal, c'est qu'on avait peur que juste que les gens trouvent ça incompréhensible et chiant, en fait, parce que c'est de la politique européenne. Et donc, on était très préoccupés par ça. Et donc, on a vraiment travaillé sur la première saison pour mettre beaucoup de blagues, beaucoup de comédies, pour essayer d'amener de la pédagogie, pour qu'on comprenne les situations quand même si on ne comprend pas tout, etc. Et arrivé en fin de première saison, quand je l'ai vu, la saison, je me suis dit, ben, en fait, les scènes qui parlent vraiment de politique, qui vont vraiment dans le sujet, quelque part, sont les meilleures. Et moi, sont celles qui m'intéressaient le plus. Je les trouvais très réussies. Je trouvais que les réalisateurs, la réalisatrice avaient très bien travaillé. Et donc, ça nous a décomplexé. On s'est dit, non, mais allons-y, quoi. Rentrons. Donc, première saison, ça raconte comment est-ce que Samy essaye de faire voter un amendement. La deuxième saison, on commence à parler des négociations avec la commission et le conseil. Donc, ça commence à devenir quand même encore un peu plus nébuleux, mais aussi plus marrant parce que plus original, je pense, parce que c'est vraiment des singularités de cette institution-là. Puis voilà, troisième saison, on pousse la porte de la commission. Et dans la quatrième saison qu'on vient de finir de tourner, je vous le livre, on va au Conseil européen, en l'occurrence au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire au sommet des chefs d'État. Mmh. Et donc on a aimé ça, on a aimé élargir l'horizon de la série.
Sur ce Conseil européen, Noé, sur ce sommet des chefs d'État, donc déjà on change de cadre, hein, on passe du Parlement au sommet, au Conseil. Dans une interview, dans un dossier presse, on parle de l'Olympe. Samy, qui a commencé comme stagiaire au Parlement européen, a atteint l'Olympe. Quand on a atteint l'Olympe, est-ce que ça signe la fin d'une saga? Alors je sais qu'on est seulement dans le tournage, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a des possibilités que la série évolue, qu'il y ait une saison 5 ou ça y est, on...
Non, on a vraiment pensé cette quatrième saison comme la dernière. En vérité, déjà la troisième, on avait... En fait, en finissant la troisième saison, on avait l'impression que ça y est, on avait fait le tour de Parlement, du Parlement. Et en fait, pendant qu'on était en train de la tourner, on a eu un moment de nostalgie parce que c'est un... Je dis « on », c'est l'équipe des réalisateurs, les scénaristes, les acteurs, parce que le collectif est très fort, en fait, sur Parlement. Et c'est une série qu'on a énormément de plaisir à faire pour plein de raisons. Parce qu'on tourne dans les décors, donc c'est un terrain de jeu extraordinaire, quoi. On va vraiment, je pense qu'on est la seule série au monde qui se tourne vraiment dans le décor dans lequel la série est censée, enfin, politique, j'entends. Et donc, il y a ça... Et puis il y a même la singularité du sujet qui est tellement on est les seuls à raconter cette histoire et ça c'est grisant. Et donc on a eu un moment de nostalgie anticipée en se disant merde, en fait c'est la dernière saison, c'est triste. On se disait on va jamais retrouver ça et on s'est dit allez, on pitch une quatrième saison. Sauf que pour les mêmes raisons que ce que je disais entre la première et la deuxième saison, c'est on voulait pas remettre le couvert et donc on s'est dit ben allons au conseil. Parce que c'est étonnant et parce qu'on aura aussi un sentiment de ça y est, on a atteint le soleil, quoi. On peut pas monter, voilà, on peut pas aller beaucoup plus haut que ça en Europe.
Est-ce que aussi c'était compliqué de sortir des clichés de qu'on peut avoir d'un Parlement européen, de penser, je disais tout à l'heure, une nébuleuse, quelque chose qui compliqué, qui fonctionne mal, différents pays, différentes langues, différents égos, etc. Ou est-ce qu'en fait au final ça s'est quand même bien déroulé comme le Parlement européen se déroule bien au final tous les jours au jour le jour? Il y a certains clichés dedans. Je me souviens du moment où par exemple savoir qui va poser la première question, c'est très important dans un meeting. On est ok de poser les questions, mais qui va être la première? Il y a cette notion d'ego et l'espagnol devant le serbe. Enfin, voilà. Est-ce que ça a été compliqué de pas tomber dans ces clichés trop facilement?
En fait, on a décidé parce que y a deux façons d'aborder les clichés. Il y a en faire usage ou décider d'aller contre. Mais en général, quand on essaie d'aller contre le cliché, on est aussi dans le cliché. Parce qu'en vrai, essayer de contourner un cliché, c'est cliché. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a dit on va embrasser les clichés, on va essayer de les résoudre. Ça veut dire, on commence avec un député en première saison qui est vraiment tout ce qu'on imagine d'un parlementaire européen. Il est paumé, il est globalement incompétent, il est paresseux. Enfin, c'est terrible. Mais... en réalité, on commence là et on l'amène ailleurs, ou en tout cas, on essaye de résoudre le personnage, de l'élucider d'une façon qui soit surprenante. Et surtout, nous, ce qui nous a beaucoup importé, c'est d'essayer d'être vrai. Pas dans le sens réaliste, mais vrai dans le sens où les gens qui connaissent reconnaissent quelque chose et les gens qui ne connaissent pas aussi, quelque part, reconnaissent quelque chose. Et je pense que... et ça a été un des grands... Disons... Enfin... ce qui a permis de faire cette série et de la faire telle qu'elle existe, c'est que je l'ai coécrite en partie avec deux auteurs qui sont dans les institutions. Maxime Caligaro, Pierre Dorac. Maxime Caligaro qui était assistant parlementaire, qui maintenant est conseiller politique, et Pierre Dorac qui était fonctionnaire au Parlement, maintenant à la Commission. Et donc Pierre et Maxime ont vraiment un regard de l'intérieur sur ces lieux, un regard avec, et voilà, et l'autre chose, la question qui revient souvent et que j'ai l'impression est le corollaire de celle-ci, c'est vous montrez par exemple un député paresseux, est-ce que du coup la série est eurosceptique?
Il en prend un peu pour son grade.
Ouais, et en même temps, moi j'ai l'impression qu'il faut écrire par-delà ça. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a un personnage comme dans toute série, ce serait une série qui se passerait à l'hôpital, qui se passerait à l'école, en fait on aurait ce perso, parce que c'est un archétype et qui nous intéresse, qu'il est drôle, etc. Et puis en même temps, on lui trouve sa rédemption. C'est-à-dire qu'il va être utile à un moment, il sera heureux d'être utile.
On s'y attache aussi.
Exactement.
Il a un côté humain. Il a un côté humain. C'est juste l'humanisation du personnage.
Absolument. Et voilà. Et il y a d'autres parlementaires et qui sont efficaces, mais ambitieux, ou qui sont.
Ça, c'est des managers qui vous énervent au travail.
Ouais.
Le jour le jour.
Non, mais c'est ça. Et c'est que des gens qu'on reconnaît parce qu'on les croise, parce que ce sont des types, en fait, à l'intérieur d'un groupe. Et donc, nous, on a décidé d'en faire usage, d'embrasser ça et de s'amuser avec.
J'ai une question un peu extra par rapport à ça. Est-ce que quand vous avez créé ça, il y a eu aussi, vous avez pensé à l'auberge espagnole, les films de Clapiche, il a d'ailleurs fait sa salade grecque après coup. Est-ce que ça a été aussi une inspiration?
En fait, je pense que c'est marrant, j'y pensais en venant, je sais pas pourquoi, j'ai repensé à ça, à l'auberge espagnole. On cite l'auberge espagnole dans le tout premier épisode de la saison, la première saison. Où Samy dit.
C'est emblématique, hein,
si on se mettait en coloc comme dans l'auberge espagnole, et en fait, l'anglaise et l'allemande, ils n'ont pas vu l'auberge espagnole, donc ils ne voient pas de quoi ils parlent, et puis ils l'envoient bouler. Et en fait, l'auberge espagnole a vraiment un peu habité le projet, parce que je pense que pour ma génération, c'est un film, c'est vraiment la définition du film culte.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le film qu'on a vu à la fête du cinéma, dans une salle comble, qui représentait une réalité qui était déjà la nôtre, mais qui n'avait pas encore été représentée. Et qui nous a fait rire, etc. Et qui est vraiment quelque chose dans lequel on se reconnaissait de tout point de vue.
Ça a capté une génération.
Ouais, totalement. Complètement. Et je pense que c'est un film qui a, pour le coup, moi j'aime pas dire ça, et quand on me dit est-ce que vous pensez que la série fait du bien à l'Europe, en vrai, j'ai pas de réponse là-dessus, mais je pense que l'auberge espagnole, oui.
Totalement.
L'auberge espagnole a compté pour la construction européenne. Et donc c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et en même temps, il y a quelque chose dans l'auberge espagnole qui est vraiment, pour moi, daté du point de vue de la société. Ça veut dire que c'est vraiment un film qui raconte un type qui découvre l'Europe, se fait des amis, etc., revient et il doit bosser dans un ministère et il dit non, moi je vais être écrivain.
Ouais.
Et ça, pour moi aujourd'hui, c'est impossible d'écrire ça. C'est vraiment un fantasme d'une génération précédente, parce qu'en fait, non, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail, d'abord, il est content d'avoir un boulot.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a quelque chose de super narcissique des années 2000.
Aujourd'hui, il serait TikToker.
Ouais, ou alors ce serait cette satire là, etc.
Il serait influenceur.
Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que là, c'est vraiment un type qui veut agir dans le monde, et il a l'impression que d'être au ministère, c'est s'enterrer.
Mm-hmm.
Et nous, quelque part, on raconte l'histoire exactement symétrique.
C'est l'ambivalence. C'est l'ambivalence.
Non, c'est vraiment l'inverse. Ça veut dire que c'est un type qui arrive et qui dit moi, j'ai envie de faire la teuf, être en coloc. Et en fait, il est ramené au travail, et au travail qui a l'air le plus ingrat. Et en vrai, il va tout donner pour ce boulot.
Mm-hmm.
Et il va décider qu'en fait, là, il va pouvoir faire une toute petite... Il va pouvoir agir dans le monde, mais d'une façon microscopique, mais il aura agi dans le monde. Et donc, c'est exactement l'inverse, le programme inverse de l'auberge espagnole, quelque part. Et donc, c'est marrant, parce que la série entretient un rapport avec l'auberge espagnole paradoxal, de ce point de vue.
Vous l'avez rencontré, ça, avec Clapiche, à un moment ou à un autre?
On s'est croisé deux, trois fois, et...
C'est quelque chose à discuter avec lui.
Ouais, alors c'est vrai. Mais j'ai jamais
ma
osé.
La série est l'anti-auberge espagnole.
Ouais, c'est ça, c'est quand même une façon de l'aborder un peu spéciale. Mais il m'a dit qu'il avait vu la série, qu'il avait aimé. Moi, je lui ai dit qu'évidemment, l'auberge espagnole, et les suites comptaient dans l'élaboration de la série. On n'est jamais allé, mais on n'a jamais eu cette conversation plus en profondeur. Je serais très curieux de la voir.
Mais si vous faites l'inverse, si vous faites l'inverse, ça veut dire que lui, il est passé de trois films à une série. Lui, vous allez passer de trois ou quatre séries à un film.
La logique
serait là.
C'est vrai. Mais on y pense, en plus. En tout cas, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est s'il devait y avoir une suite à Parlement, ce qui nous ferait marrer de faire, ce serait de faire dans quelques années un long métrage où on retrouverait tous les personnages, voir comment ils ont évolué et leur donner un argument de film, quoi.
Nathanaël.
On va reparler un peu de civisme, Noé, tu vas aborder cette question avec les clips, désolé hein, de casser un peu l'ambiance et de mettre du sérieux super. Dans cette émission. Il y a un sondage Eurobaromètre qui est paru il y a quelques jours, indiquant que 71% des citoyens sondés des États membres s'apprêtent à aller voter en juin prochain. C'est 10 points de plus que les intentions de vote il y a 5 ans. Et si on prend même le vote qui a eu lieu il y a 5 ans, c'est 20 points de plus. Est-ce que toi, qui as travaillé hein, sur l'Europe, qui a rencontré des acteurs, qui a rencontré des citoyens, pourquoi est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens? Comment est-ce que tu expliques que y a un regain d'intérêt pour l'Europe, au moins dans ces sondages-là, avec une participation qui sera certainement plus importante et un taux de vote aussi qui sera plus important qu'il n'y a 5 ans?
Ah, je me méfiais énormément de mon regard là-dessus parce que je suis quelque part la personne la moins bien placée pour en juger vu que moi je suis plongé à l'intérieur. C'est-à-dire ça fait 4 ans maintenant, 5 ans que je vais tous les mois à Bruxelles ou à Strasbourg, que je rencontre les gens, que je déjeune avec eux, que je lis les newsletters politico, enfin vraiment les trucs que personne d'autre ne fait. Donc en fait je suis un nerd du truc, donc quelque part ce que les gens en reçoivent, je suis le moins bien placé pour le dire. Ce que je ressens en revanche là-bas, d'abord il y a eu un tournant. Alors du point de vue français, je trouve qu'il y a eu un tournant, pas aux dernières élections, aux élections d'avant. Parce que moi, c'était intéressant, la série était déjà elle était dans un tiroir à ce moment-là. Et je me souviens qu'on avait écrit, par exemple, le personnage de Michel, dont on parlait tout à l'heure, un peu sur la base de députés européens tels qu'ils existaient il y a 15 ans. C'était un peu, voilà, je sais pas quoi, un hortefeux. Ça pourrait être ce type de profil qui était quelqu'un qui avait de la place dans son parti, et puis à un moment on savait plus trop quoi en faire, on l'envoyait à Bruxelles,
on le recasait
à Bruxelles, puis lui arrivait là, et puis la politique européenne bon, et puis voilà quoi. Et donc il y avait un côté un peu le garage en fait. Et Macron arrivé au pouvoir, il y a eu les élections européennes suivantes et là il y a eu un vrai changement. Je sais pas si c'est à cause de Macron ou c'est juste un truc générationnel, mais tout d'un coup tous les candidats étaient jeunes et ambitieux. Il y a eu Manon Aubry, il y a eu François-Xavier Bellamy, il y a eu, je crois que c'était déjà Séjourné, je ne sais plus qui était tête de liste Renaissance. Il n'y avait que des jeunes, et il y avait que des jeunes, et des jeunes qui étaient là pour en découdre, en fait. Et ça a vachement changé. Et aussi, c'est passé sur un ticket national, au lieu d'être un ticket régional. Enfin, voilà. En France, du coup, c'était plus des têtes d'affiche, un peu. Et le game a changé. Et du coup, si ces nouveaux députés sont arrivés là, ils ont été élus et eux, ils ont décidé qu'ils allaient exister en France. Donc, on a commencé à les avoir dans les matinales de radio. Enfin, ils ont commencé à vraiment communiquer différemment. Je ne sais pas s'ils bossent plus ou mieux que les députés qui étaient là avant, mais en tout cas, ils ont décidé qu'on allait plus les entendre. Et par ailleurs, après, sur les sujets eux-mêmes qui sont traités au Parlement, je pense que... mais ça a été beaucoup dit, on a beaucoup parlé d'Europe parce qu'il y a eu beaucoup de crises. Je pense que le Brexit aussi a beaucoup à jouer. Voilà, donc je pense que c'est la congruence de tout ça. Après, je sais pas quel est l'œuf ou la poule, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'on traite des sujets plus importants ou plus urgents au niveau européen ça fait que du coup les hommes et les femmes politiques, personnels politiques qui s'y iront est peut-être plus motivés ou si c'est l'inverse.
Sur ces têtes d'affiche d'ailleurs, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est encore le cas pour ces élections avec Glucksmann, Ayer,
absolument.
Bellamy, c'est encore des jeunes qui ont...
Et Bardella surtout.
Et Bardella.
Ouais, non, mais
ça vient justement une question que j'avais pour vous. La montée de quelqu'un comme Bardella, on ne sait pas où ça va s'arrêter au sein du Parlement européen en tout cas. Est-ce que pour vous, on parlait d'il n'y aura pas forcément de saison 5, mais est-ce que du coup, cette montée de l'extrême droite qui pourrait être vraiment un virement total d'une Europe qui remet en question beaucoup de choses sur même les fondements de l'Union européenne, ça peut être quelque chose qui peut vous dire, en fait, il faut qu'on fasse un hiatus parce qu'il y a vraiment matière pour une saison 5 ou il y a vraiment matière pour une autre histoire, peut-être une saison plus courte, des épisodes spéciaux. Enfin,
en fait,
est-ce que l'actualité peut changer la donne pour vous?
Bien sûr. En fait, la question de l'extrême droite, c'est une question qu'on n'a pas arrêté de se poser pendant toute la fabrication de cette série parce que les groupes d'extrême droite occupent une grande place, en fait, au Parlement européen. Le truc, c'est que donc, on avait un problème. C'est qu'on sait que, se connaissant, on sait que si on introduit un personnage Rassemblement National, en fait, nous, on ne fait que des personnages qu'on aime. Donc on allait en faire quelqu'un d'une façon ou d'une autre qu'on allait rendre sympathique. Ouais. Et donc il y a cette difficulté-là, faut se le dire. En même temps, ça, pourquoi pas, quelque part. Pourquoi pas, parce que ça n'empêche pas d'avoir un regard satirique ou quoi. Et puis, bon, voilà, il faut être cohérent. Et en même temps, la vérité, c'est juste que les députés Rassemblement National, nous, ce qu'on raconte, c'est le travail parlementaire, mmh. et juste, ils ne sont pas dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les compromis, ils ne sont pas dans les négos. En fait, ils n'existent pas. Tout le parti auquel appartient, le groupe auquel appartient le Rassemblement National, qui est Identité Démocratie, ID, bah, en fait, non, ils sont là, ils déposent des espèces de déclarations, tout ça est très performatif, ils vont dans les médias, ils parlent, ils s'agitent, enfin voilà, c'est Bardella. Enfin, Bardella, c'est un. Moi, à chaque fois, il me fait l'effet d'un coach en masculinité sur TikTok, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que. Enfin, et au final, et d'ailleurs, ça marche, sa campagne, il parle jamais des questions européennes, on lui dit, ah, les violences dans les cités, enfin, tout ça n'a rien à voir avec la discussion à Bruxelles ou à Strasbourg, et puis, et ça passe. Enfin, d'une façon que je trouve grotesque. Et ça, ça me ferait marrer de le représenter.
Mais ça a été représenté à une autre mesure, mais dans Baron Noir, par exemple. Baron Noir, ils ont réussi à montrer ce côté de...
Vachement.
Est-ce que ça vous fait réfléchir
aussi ? Baron Noir, pour le coup, moi, je trouve que Benzekri, ce qu'il fait, ce qui est remarquable, mais pour moi, on fait deux choses très différentes, mm-hmm. en fait. Parce que j'ai l'impression que Benzekri, lui, il part du principe, il part du discours. C'est-à-dire, il se dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de la politique ? Et c'est un type qui vient de la politique. Et donc, il se dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de la politique ? Et il trouve le récit qui va lui permettre comme ça d'élaborer son propos, etc. Et c'est assez remarquable. Et puis La Fièvre aussi, sa nouvelle série est très forte de ce point de vue là alors que nous, c'est presque le démarche inverse. C'est-à-dire, nous, on se dit, comment est-ce qu'on fait une série marrante, et après on va dans le truc, on voit la politique et on se dit, ah tiens, on peut, ah ouais, tiens, ça, cette situation, elle est dingue. Mmh. On nous raconte une situation, on dit, ah, putain, c'est trop marrant. Ah, la concurrence entre les commissaires, on n'avait jamais pensé à ça. Évidemment qu'ils se détestent, évidemment, machin. Et bah, comment est-ce qu'on va générer des situations avec ça. Et on essaye, de raconter quelque chose de plus large sur la politique, mais c'est notre point d'arrivée, c'est pas notre point de départ. Parce que Benzekri, j'ai le sentiment que c'est son point de départ. Et donc, c'est deux façons de faire des séries très différentes, ouais. et passionnantes, les deux. Hein. Mais quelque part, c'est beaucoup plus sa place à lui qu'à moi.
D'accord.
Je crois.
On le voit, hein, dans la série, hein, différentes cultures, différentes nationalités qui communiquent, qui travaillent ensemble. Est-ce que tu connais un petit peu l'acception de la série en dehors de France Télévisions, en dehors de la France? Comment cette série, elle est perçue par les autres pays européens?
Les Allemands, enfin, ce que je sais le plus, c'est les Allemands, parce que la série est coproduite vraiment à 50% par les Allemands et qu'elle est diffusée là-bas de façon assez large. Et les Allemands aiment beaucoup la série. Alors, c'est marrant parce que, à tel point que même les Allemands, eux, ils étaient là, mais non, mais faites une cinquième saison, etc. Ouais. Enfin, ils sont très, alors que quand même, on se fout pas mal de leur gueule, mais ils aiment bien. Et ce qui est marrant, c'est là où ils sont sans, enfin, ce qui m'a toujours beaucoup surpris. Alors, il y a un truc que j'ai beaucoup entendu, et ça, c'est marrant, je l'ai entendu des Allemands, j'ai entendu de certains Anglais aussi qui ont vu la série, etc. C'est qu'ils m'ont dit, ah, c'est incroyable à quel point le personnage principal est français. Et c'est quelque chose auquel nous, on pense pas du tout.
Ouais.
En l'écrivant, on se dit pas, on va
moi, j'ai pas pensé un jeu.
Mais ouais, mais en fait, si, parce que dans leur tête, moi, je me souviens, au tout début, quand je faisais lire des scénarios, à un moment, je cherchais un co-auteur en Angleterre. Et j'avais fait lire à différents scénaristes britanniques, j'en ai parlé avec eux, et ils me disaient, ah tiens, ce personnage, c'est vraiment original. Parce qu'en fait, pour les Anglais, le personnage de comédie évident, surtout dans une comédie de bureau comme ça, c'est un type un peu mal dans sa peau, qui trouve pas sa place,
bah,
et qui
arrive
pas,
machin.
The Office. Et nous, on fait l'inverse, on fait un Harlequin. Nous, c'est un type qui arrive, qui a trop confiance en lui, qui se dit, qui prend des initiatives alors qu'il devrait pas, il se prend les pieds dans le tapis, il se ramasse, il se relève, il a le sourire, il dit, c'est pas grave, c'est reparti. Et donc, il a un truc un peu OSS 117, en fait.
C'est Belmondo de...
Exactement, un truc Belmondo et un truc un peu...
C'est le coq qui continue à chanter les pieds dans la mer.
Ouais, voilà, c'est ça. Il a un truc un peu Macron aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a quelque chose de Chirac. Il y a quelque chose qui est vraiment, et ça, en fait, nous, on le perçoit évidemment pas particulièrement comme français. Et puis, si on essayait, de toute façon, de faire un personnage typiquement français, je pense que ce serait nul. Mais eux, ils le voient, et ça, j'ai trouvé ça charmant, quoi, de découvrir ça. Et après, les Allemands, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que nous, on écrivait beaucoup des personnages allemands autoritaires et un peu méchants, et parce que c'est aussi un peu ce qu'on observait là-bas, et on avait peur qu'ils rejettent ça. Et en fait, non, pas du tout. Mais à un moment, on en a eu marre de faire des personnages allemands qui étaient un peu toujours la même couleur, et du coup, on a fait des personnages allemands qui, tout d'un coup, étaient dans le doute, étaient faibles. Voilà. Et ça, par contre, ils n'ont pas aimé.
Ah, d'accord.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne les dérange pas d'être méchants du moment qu'ils ont le pouvoir, les Allemands.
Mais là, d'un seul coup, vous foutez Dieu.
Et de toute façon, moi, il y a un truc qui a toujours été là dans la série et qui, je pense, est pareil, participe du grand plaisir qu'on a à la faire. C'est qu'à chaque fois qu'on a rencontré des difficultés dans la fabrication de la série, on a intégré ces difficultés au récit de la série. des retours qu'on avait des diffuseurs qui nous disaient « Ah, mais votre histoire de Finning, est-ce que c'est vraiment... vous voulez pas plutôt faire un truc sur les réfugiés, machin ?» Et toutes ces choses qu'on nous a dites, on les a mis dans la série.
D'accord.
Tu citais avant Manon Aubry, je crois qu'il y a eu Beaune aussi. Ouais. C'est quoi les caméos de la saison 5, on peut les dire ? Est-ce qu'il y en aura ?
Ouais, il y en a un. Il y en a un. Il y en a deux. Attends. Il y en a un gros.
Ok.
Mais je veux pas vous le dire, non, c'est marrant de le découvrir. Il y en a un gros. En vrai, non, l'anecdote marrante, c'est qu'on a failli avoir Zelensky.
Ah.
Et c'est ça, en t-shirt pendant une.
Bah, je suis deg. Non, mais on a failli. En fait, non, on a failli. J'exagère. Mais on a tenté d'avoir Zelensky comme dernière scène de la quatrième saison. Où c'était Samy qui faisait visiter les locaux du conseil et qui disait bon voilà il y a une salle et puis en fait l'idée c'est qu'il y avait marqué UK sur une scène et sur une porte et ils avaient juste rajouté Crane.
D'accord,
Crane,
okay.
Parce que bah il y avait plus besoin de salle pour le UK et on a fait remonter, ça arrivait jusqu'à Zelensky, ça chargeait de relations culturelles ou je sais pas quoi, lui a parlé de la série, lui a proposé parce qu'en plus lui vient d'une série comique, c'est ça qui nous faisait délirer aussi. Et raisonnablement, je pense qu'il a dit qu'un chef d'État d'un pays en guerre pouvait pas non plus complètement faire n'importe quoi. Donc, ce qu'on a compris. Hein.
D'accord. Bon, on va attendre d'avoir Von der Leyen dans la saison 5.
Ou Macron.
On est dans l'actu dans Europa Voice et dans SBS. Mort de Bernard Pivot. Moi, j'ai une petite question j'ai une petite question un petit peu Bernard Pivot. Le plus tard possible, évidemment. Mais quand la grande faucheuse viendra, Noé, et que tu te retrouveras au paradis face au père fondateur Schumann, Monet, Casperi, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent à propos de Parlement? Qu'est-ce que t'aimerais
Bah c'est Monet qui dit. On parle beaucoup de Monet dans la série. C'est un peu une figure notamment dans la saison 3, il apparaît dans un rêve, etc. Et parce que c'est un personnage très romanesque, Jean Monet. Et il y a cette citation apocryphe. Enfin, on ne sait pas trop si c'était à refaire. Je commencerai par la culture. Bah voilà, j'espère qu'il dira merci d'avoir finalement amené. D'avoir parlé d'Europe à l'intérieur d'un objet culturel, comme on dit.
D'accord, bah merci en tout cas d'être venu nous voir dans les studios. On espère avoir cette série sur SBS. Ce serait pas mal qu'on en discute à un moment ou à un autre. Je sais pas ce qu'il va falloir faire pour que ça arrive, mais.
Ça a failli arriver parce que dans la première saison, juste une petite anecdote, il y a une star australienne.
D'accord.
Qui joue la députée britannique qui s'appelle Jane Turner, laquelle j'étais rentré en contact grâce à Nati. Et qui joue une députée britannique parce qu'il se trouve que Jane Turner vit à Paris et à cause de ça ou grâce à ça la série a failli se vendre il me semble qu'on avait une marque d'intérêt d'SBS et peut-être qu'après ils se sont dit quand même une série sur le Parlement européen après la série curieusement est vendue aux États-Unis et au Canada donc
d'accord on croise les doigts, merci,
avec plaisir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.